Azul Azul, bienvenue au Café des Burnies, le podcast qui prend soin des nanas en burn-out. Je m'appelle Sarah, je suis dealeuse de peps pour nanas épuisées et grâce à mon expertise d'infirmière, de coach en résilience et ma passion pour la trichothérapie, je t'aide à déculpabiliser, à sortir de ton isolement, à retrouver ta confiance en toi et à reprendre goût à la vie. Alors chaque semaine, que ce soit en solo ou avec une nana inspirante, on parlera dévalorisation, échec, harcèlement, mal-être, mais aussi résilience, espoir, épanouissement. Épanouissement et reconversion. Si tu veux retrouver ton énergie, ta motivation, ton peps, ton envie de faire les choses, si tu veux reprendre le boulot sur de bonnes bases, alors réserve ta séance de diagnostic avec moi. On prendra le temps de faire le point sur ta situation et voir comment je peux t'aider à te reconstruire suite à cet épuisement. Tu trouveras le lien dans le descriptif. Maintenant, détends les épaules, cohérence cardiaque et profite pleinement de cet épisode. Aujourd'hui, je vais accueillir Chloé, qui va nous parler plutôt du point de vue d'un recruteur lors d'un entretien d'embauche pour toutes ces femmes qui ont des pauses dans leur CV parce qu'elles ont dû bosser sur elles, prendre soin d'elles suite à un épuisement professionnel. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou Chloé, j'espère que tu vas bien. Merci d'avoir répondu présente à mon invitation pour parler un peu de la salariée, mais d'un côté RH. Bon, déjà, comment tu vas?
Écoute, ça va très bien, merci, et toi?
Ça va. Bon, ici, il fait froid.
Il fait gris.
Il y en a marre.
En Égypte, il fait aussi un peu froid, mais c'est pas le même froid. Nous, on se plaint du froid quand il fait 15 degrés. Donc,
j'allais dire, je suis sûre, il fait 18 chez toi. Arrête de parler.
Parce que mais c'est un ressenti froid un peu quand même.
Attends, moi, il fait 9, mais en réalité, c'est pas 9. Non. Attends, je vais quand même prendre le temps. Ouais, parce que je suis sortie ce matin, il faisait pas 9, hein, c'est pas vrai. C'est un ressenti.
Moins 1.
Entre 1 et 6.
Oh ah tu ouais, là, tout de même.
Et ça va encore, hein, parce qu'on a eu un ressenti de moins 6 les derniers jours. Non, moi j'en ai marre.
Bon, ça passe, on veut l'été.
Heureusement que ça passe, on est très loin, mais au moins que ce froid-là passe.
Ouais, c'est ça.
Ah là là. Donc, comme je disais, moi je pensais que tu t'appelais Marha, tu vois, je le prononçais Mara. Et du coup, j'ai su que non, tu t'appelles pas Mara, mais que tu t'appelles Chloé. Donc, c'est quoi
Exactement.
Cette histoire?
Exactement. Ben, en fait, mon pseudo, alors moi, initialement, j'étais sur TikTok et j'avais réfléchi à un pseudo et ce qui m'était venu, c'était ma RH à TikTok. Et en fait, dans la manière d'écrire le truc, ça faisait ma RH à, plus loin, TikTok.
D'accord.
Vu que je pense que j'ai une tête à m'appeler Mara, donc j'accepte totalement ce deuxième prénom, tout le monde s'est mis à m'appeler Mara, alors qu'effectivement, je m'appelle Chloé, voilà.
C'est pas raciste du tout. C'est pas raciste du tout.
Non, mais écoute, je me suis dit, j'ai une tête à m'appeler Mara, let's go, quoi, allons-y.
En plus, ça fait vraiment prénom, hein. Pour le coup, tu vois,
c'est
pas bizarre.
Il y a des prénoms, il y a des personnes qui s'appellent comme ça, hein.
D'accord, ok.
Il y a des personnes qui s'appellent comme ça. Et moi-même, je le savais pas, j'y avais pas du tout pensé une seule seconde, quoi. Je me disais pas que ça pouvait devenir, mon identité sur Internet, en fait, finalement. Donc, pourquoi pas?
Écoute, mais donc voilà, tu t'appelles Chloé et du coup, ouais. Tu fais quoi dans la vie, Chloé?
Alors, moi, je suis coach carrière employabilité. Je suis spécialisée dans les problématiques professionnelles féminines. Donc, grosso modo, j'accompagne les femmes tout au long de leur carrière et à travers le marché du travail. En mettant aussi l'accent sur la compréhension des enjeux de ce marché, puisque c'est un marché qui peut être effectivement discriminant, inégal, inéquitable, etc. Donc en fait, j'accompagne les femmes, toutes les femmes, à traverser et à se démarquer dans ce marché du travail.
Donc que je sois au tout début du process, c'est-à-dire lettre de motivation, machin, CV.
Ouais.
Que je sois déjà salariée, mais oui. J'ai envie de changer de poste ou j'ai envie d'avoir une promo.
Exactement.
Et puis, ce serait quoi, genre le summum?
Le summum, ça serait, entre guillemets, une fin de carrière, tu vois. Fin de carrière, t'es... Alors, c'est fin de carrière, entre guillemets, parce que t'as des profils dits « senior ». Aujourd'hui, la seniorité, elle arrive tôt, hein, sur le marché du travail, on se rend pas compte, mais à partir de 45 ans... encore parfois je suis généreuse, les profils sont catégorisés, parce que c'est vraiment une catégorie hein, dans lesquelles on les met, comme étant des profils seniors, et ça peut, on se rend pas compte, mais engendrer beaucoup de discrimination notamment. Alors qu'on n'est pas du tout en fin de carrière à 40 ans, enfin 45 ans vraiment pas du tout, hein, il nous reste de très belles années devant nous. Mais aujourd'hui, je suis aussi amenée à accompagner beaucoup de femmes dans cette situation qui ont effectivement 40, 50 ans et qui ne trouvent plus de travail parce que bah tout simplement les entreprises les discriminent sur leur âge, sur une potentielle sans rentrer trop dans le détail parce que voilà, c'est pas forcément le sujet, mais on est discriminé sur deux choses quand on a un profil dit senior, c'est vraiment son âge et donc sa potentielle non capacité à s'adapter à l'environnement de l'entreprise qui aujourd'hui est très un peu start-up etc. Ouais. C'est très mode et tout ça. Et la deuxième chose, c'est le potentiel coût de la salariée ou du salarié. Ça fonctionne aussi chez les, enfin ça c'est valable aussi chez les hommes, mais bon, on est un peu moins discriminé en général quand on est un homme. Se dire, les entreprises se disent, en fait elle va nous coûter trop cher, donc on va pas la recruter quoi. Enfin bref, donc c'est ça va
Est-ce
être.
Est-ce qu'il y a pas aussi un aspect où celle qui a 45 ans, tu vois, elle a roulé sa bosse et du coup. Elle va peut-être s'imposer un peu plus ou elle va pas se laisser écraser alors qu'une jeunesse de 20 ans, tu vois, t'es pris l'os, t'apprends.
Carrément.
Et t'as pas forcément la personnalité qui...
Tout à fait. Et il y a effectivement cette vraie problématique et c'est pour ça que je dis que les hommes sont généralement statistiquement un petit peu moins discriminés que les femmes, c'est parce que les femmes rencontrent la problématique du plafond de verre. Et effectivement, cette problématique fait que on arrive à un certain échelon dans notre entreprise, peu importe notre âge, mais en général ça arrive souvent vers 40-50 ans et en fait on peut pas viser plus haut parce que on a atteint le summum de notre carrière, alors qu'en réalité c'est peut-être pas ce qu'on ambitionnait initialement, mais c'est une problématique qui existe et qui est un vrai fléau quoi.
Et donc ça veut dire, est-ce que tu as beaucoup de personnes qui veulent se remettre sur le marché?
Oui, j'ai énormément de personnes qui veulent se remettre sur le marché pour des raisons vraiment diverses et variées. Ça peut être soit, en général, c'est suite à une pause entre guillemets, qu'elle soit subie ou choisie. Donc j'ai choisi de faire une pause pour élever mes enfants, etc. Peu importe la durée, ou alors j'ai subi entre guillemets ma pause parce que pour des raisons de santé mentale, physique, etc. Donc exactement. Et en fait, le marché évolue très très vite. Les règles évoluent très vite. Et en plus, là, on connaît depuis quelques années maintenant des difficultés d'insertion sur un marché qui est très 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 tendu. Il y a plus de demandes candidats que d'offres entreprises. Sans compter les fausses offres d'emploi des entreprises qui machin. Enfin bref, les entreprises n'ont plus d'argent, les candidats n'ont plus de travail, et c'est un.
Et tout va bien, dans le meilleur des mondes. Voilà, l'épisode est fini. On vous souhaite de bien vous défenestrer. Et puis...
C'est clair. Bon atterrissage surtout. Non, c'est terrible, c'est vraiment terrible parce que tout le monde a besoin de manger quoi. Mais donc oui. C'est compliqué, c'est très compliqué. Effectivement, les profils en réinsertion sur le marché du travail sont des profils qui ont une double difficulté, c'est-à-dire qu'elles doivent se réaccrocher à ce qui se fait actuellement et en plus elles doivent apprendre à s'approprier cette pause professionnelle, qu'elle soit subie ou choisie. Et ça, c'est un vrai, vrai, vrai problème que je rencontre beaucoup avec
les clients. C'est quoi à peu près les blocages que tu vois que tu peux percevoir?
En général, les blocages, ça va vraiment être le fait de perdre confiance. La confiance en soi. Alors déjà que c'est un souci.
Base.
Récurrent, voilà, de base. chez les femmes, cette perte de confiance, ce syndrome de l'imposteur, le fait de se sous-valoriser, etc. Même quand on n'a pas fait de pause professionnelle, c'est quelque chose qu'on rencontre. Alors quand on a fait une pause professionnelle, c'est vraiment démultiplié, c'est qu'en fait, Et notamment après un burn-out en plus, parce que bah il y a vraiment des vraies conséquences psychologiques et parfois physiques. Clairement, en fait, on se dit qu'on n'est plus... en fait, on remet tout en doute, notre système de valeurs, nos compétences, nos expériences qu'on peut apporter à une entreprise, notre légitimité, tout est absolument remis en doute, remis en question. Et effectivement, ces femmes-là, en général, ne se sentent soit plus capables, soit se disent, bah, en fait, je suis limite revenue à un poste, enfin, pas un poste, mais un statut de junior, quoi.
Quelque part.
Ouais, j'ai tout oublié, je sais plus quoi faire, etc. Enfin, et puis en plus, personne va me prendre parce que le deuxième blocage, ça va être le regard des recruteurs. Alors qu'en réalité, c'est très vicieux parce que c'est pas le regard des recruteurs, c'est leur propre regard sur elles-mêmes. Tu vois, je parlais là récemment avec une cliente qui était en réinsertion et qui disait, ouais, mais moi, à titre, si demain je suis recruteuse et que j'ai deux CV, il y en a un, c'est mon CV à moi où j'ai fait, ou en l'occurrence, en plus, elle avait fait un burn-out, où j'ai eu un burn-out et une pause de 2 ans et un autre CV d'une concurrente ou d'un concurrent qui a eu une carrière en continu, bah, je prends le deuxième CV. Et en fait, je disais, bah, c'est intéressant parce que c'est pas toi la recruteuse. Tu vois?
J'irai même plus loin. Ça veut dire qu'il y a une telle exigence envers soi-même qu'en réalité, elle a pas trop accepté son arrêt. Tu vois, elle a pas accepté la pause de 2 ans.
Exactement.
Sinon, elle la présenterait comme étant une bonne occasion. Elle a su faire ci, faire ça, nanana. Mais ça veut dire que cette dame, elle est encore dans le je suis naze.
Ouais, c'est ça. Et
moins bien que les autres.
Exactement. Et en fait, je lui disais, mais tu vois, c'est ton propre regard. Tu n'es pas à la place de la personne qui recrute. Et d'ailleurs, tu ne sais pas qui est la personne qui recrute. Parce que peut-être que la personne qui recrute, elle-même, elle a subi un burn-out ou elle a eu une pause pour X ou Y raison. Et en fait, elle va se retrouver dans ton parcours. Ouais. En fait, on ne sait pas. Et on a tendance, effectivement, quand on se met nos propres barrières, alors c'est compliqué, évidemment, hein, c'est des barrières qui arrivent, entre guillemets, un peu toutes seules et qui sont, et on a du mal à faire autrement. Mais c'est un vrai exercice. C'est un travailler sur soi, mais en tout cas, voilà, c'est vrai que il a fallu reprendre un peu ce truc-là et dire non, ça c'est ton regard à toi et tu n'es pas la recruteuse et tu sais pas qui va recevoir ton CV et en fait et peut-être même que la personne qui a un parcours en continu, elle a peut-être des compétences, par contre elle a des qualités qui sont toutes pourries, tu vois, et donc toi à l'inverse tu vas apporter des qualités humaines, etc. Et enfin voilà, c'est ce qui va faire la différence. Donc voilà, c'est vraiment ce type de blocage-là. Et le troisième blocage, je dirais que c'est la confusion en fait dans qu'est-ce qu'elles veulent vraiment maintenant. Suite à un burn-out, c'est vraiment qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, comment est-ce que je me positionne clairement. Et ça, c'est un travail qui est hyper important à faire. Parce que bah voilà, c'est ce qui peut aussi empêcher de retomber potentiellement dans un cercle, un cycle, voilà, qui va nous refaire souffrir, quoi.
J'imagine que si tu ne sais pas ce que tu veux, bah forcément quand tu vas candidater, c'est peut-être pas le bon
exactement
la bonne offre, c'est pas le bon poste.
Exactement.
Et si tu ne te sens pas dans tes tripes, ben, le jour J, tu ne pourras pas te vendre, tu ne pourras pas te donner les moyens de l'avoir, entre guillemets.
Tout à fait. Et autre chose d'hyper important, justement, dans le process de la candidature, c'est que très souvent, comme elles ne savent pas ce qu'elles valent, et comme il y a ce manque de confiance en soi, etc., etc., en fait, elles sont complètement paralysées au moment de candidater. Ce qui va entraîner justement le fait de ne pas forcément candidater aux offres auxquelles elles devraient parce qu'elles ont les compétences, elles ont le profil, etc. Parce qu'en fait, elles se disent, mais ça c'est quelque chose qui, encore une fois, est très féminin, c'est de se dire, il faut que je matche 90 à 100% des critères pour pouvoir candidater à cette offre alors que ça n'existe pas, tu vois.
Alors que d'autres personnes prendraient le risque de se dire, vas-y, allez,
totalement.
J'y vais.
Ouais. J'ai 50%, ça passe, tu vois.
Non, je vais bricoler. Je vais bricoler pour le reste, je vais broder.
Oui,
je vais
totalement. Mais c'est la manière dont il faut voir la chose. Parce que, en réalité, il faut aussi se dire que comme, de base, on a tendance à se sous-estimer, et notamment après un burn-out, voilà, c'est encore plus marqué. Et ben, il faut se dire que, déjà, notre propre profil, on le voit pas avec un point de vue objectif. Donc, en fait, nous, si on se dit, je n'ai que 50% des compétences. En réalité, ça se trouve, tu matches
on a beaucoup plus,
80%, ouais. Mais c'est juste que tu le vois pas, tu vois.
Ouais.
Donc voilà, postulez, mesdames.
Et au pire, moi j'ai envie de dire, au pire, on te dit non, on te prend pas.
Ouais, c'est ça, mais clairement.
Pire. Et c'est pas toi qu'on prend pas, c'est juste bah t'as pas ce qu'il faut ou c'était pas ton moment ou il y avait un autre profil plus intéressant, voilà. C'est...
Exactement.
Et au pire, on te dit
au
non.
Au pire, tu perds juste le temps de candidature.
Voilà.
Voilà. Bah,
c'est bon, il paraît que les procès sont un peu longs en ce moment, mais en gros c'est ça.
Oui, oui, oui. Alors ça dépend à quel moment tu peux être disqualifié, mais effectivement, c'est
en voilà, quart de finale.
Exactement. Mais il faut le faire. Il faut le faire.
Il faut
oser.
Voilà. Et ça fera toujours une bonne expérience parce que
exactement.
Plus tu te mets dans cette situation-là, mieux tu géreras par la suite.
Ouais.
Et donc, candidatez, allez aux entretiens, faites de votre mieux et ça fera toujours, ça va toujours renforcer quelque chose, c'est sûr et certain.
Tout à fait.
Bon, maintenant, imaginons qu'on a candidaté, on sort d'un burn-out bien évidemment.
Ouais.
Alors, on sort d'un burn-out. On a été voir un psy ou un coach ou je sais pas quoi, mais en tout cas, on a fait le nécessaire pour vraiment se reconstruire après un burn-out, d'être beaucoup plus à l'aise avec soi, avec ses besoins, ses envies, son cadre, ses limites et tout ça. Donc, je candidate bien comme il faut. C'est bien l'offre qui me parle, que j'ai envie de faire. J'arrive à l'entretien, sauf que voilà, j'ai 2 ans de pause, comme tu dis. J'ai 2 ans d'absence sur mon CV. Comment je peux expliquer cette période-là?
Déjà, il faut pas rougir de cette période-là. Il faut pas le voir comme un échec, même si ça peut être perçu comme un échec, d'où voilà tout le travail psychologique qui doit effectivement être effectué en amont, parce qu'en réalité c'est pas un échec, c'est une transition. Et il faut vraiment le voir comme ça. C'est en fait la question, c'est de se dire quel sens est-ce que tu donnes à cette période ? Et ça, même face à un recruteur, c'est ce qu'il va attendre. Aujourd'hui, alors j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a eu des études qui ont été faites sur auprès des recruteurs via LinkedIn, l'APEC et Pôle Emploi, il me semble, sur le fait de dire bon bah un candidat qui a eu ou une candidate qui a eu une pause professionnelle, encore une fois subie ou choisie, est-ce que c'est un candidat ? À quel point est-ce que c'est un candidat qui est recrutable ? Et en fait, les recruteurs expliquent que c'est pas la pause, le problème, c'est la manière dont on présente cette pause. C'est le sens qu'on lui donne. C'est pour ça que vraiment, je parle de sens. D'où l'intérêt de se réapproprier cette pause, d'où l'intérêt de faire un point. Et voilà, même quand on a fait un burn-out, bah, en fait, on a appris des choses de son burn-out. Et effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. On a pris du temps pour soi, on a pris du temps pour se réparer. Et en fait, durant cette période-là, même si on n'a pas développé forcément, parce qu'on peut en avoir développé, mais en tout cas, peut-être pas forcément des compétences métiers, on a sûrement développé des qualités qui vont venir nous aider et nous accompagner à être peut-être plus efficace entre guillemets dans le milieu, dans le monde du travail, mais parce qu'en réalité on est plus à l'écoute de soi, on est plus on a développé un autre sens où on sait encore une fois ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, etc. Et donc c'est vraiment le discours qu'il faut aborder face aux recruteurs, c'est de dire bah on n'est pas obligé de rentrer dans le détail du burn-out parce que ça regarde personne, évidemment. Mais en fait, de dire voilà, j'ai pris du temps pour moi, pour des raisons personnelles. Ça m'a permis de prendre du recul, d'en apprendre plus sur moi-même, de prendre de la maturité. Aujourd'hui, si je postule à votre offre d'emploi, c'est notamment parce qu'elle correspond à 100% à mes envies, mes besoins, aussi bien humain que professionnel, etc. Je suis prête à m'engager auprès de vous, etc., etc. En fait, en entretien d'embauche, ce qu'il faut, c'est rassurer le recruteur. Mais quand on a une pause professionnelle, il faut faire attention à ne pas tomber dans la justification excessive de dire non mais tout va bien, hein, vous inquiétez pas, hein, ça va beaucoup mieux maintenant, parce que c'est ça où le recruteur va se dire Oui, enfin.
Ou alors, j'ai fait un burn-out parce que mon chef, il était toxique, parce
Ouais,
qu'il me
exactement.
demandait ça.
Voilà, exactement. De toute façon, on évite deux choses. Effectivement, la justification excessive, de un, et de deux, on évite toujours de parler négativement de sa précédente expérience. Même si cette expérience a été vraiment les affres de l'enfer,
Les
l'idée,
gardes
voilà,
dans ta
exactement,
poche
c'est
pendant
vraiment
l'entretien.
d'éviter, ouais, on évite d'en parler. Et c'est pour ça que je conseille toujours de parler de, voilà, j'ai fait une pause professionnelle, parce que de toute façon, ça va se voir, hein, donc autant l'assumer directement. J'ai fait une pause professionnelle pour des raisons personnelles. Cette pause m'a permis de. Et là, on fait vraiment un point. Et même si on n'a rien fait de professionnel pendant cette période-là, c'est pas grave. On a quand même développé des compétences interpersonnelles, des qualités. Et c'est ça où il faut vraiment faire un point avant de se remettre en recherche, se remettre sur le marché du travail. Il faut faire un point sur qu'est-ce que cette pause m'a apporté.
Ok. Du coup, bah, ça répond un peu à la question que j'allais poser, à savoir, imaginons, tu tombes sur une personne en face qui te dit, c'était un épuisement professionnel, tu vois. J'imagine qu'il y en a qui peuvent se permettre. Bah,
Oui,
c'est pas un
oui.
souci finalement de dire que oui, effectivement, j'ai fait un épuisement professionnel à partir
Oui.
du moment où tu déroules tout ce que tu as fait
Exactement.
pour te reconstruire, pour être plus solide, pour être plus stable émotionnellement, pour être.
Exactement. Et encore une fois, c'est on ne sait pas qui est-ce qu'on a en face. Enfin, tu vois, il faut toujours partir de ce principe-là. Peut-être que la personne en face, elle a aussi subi un épuisement professionnel. Donc, en fait, on a peut-être, enfin voilà, le premier réflexe, effectivement, qu'on peut se dire quand on a une question comme ça en entretien, c'est de se dire, oh, ça y est, c'est fini.
C'est bon,
Clairement,
je suis
c'est terminé.
grillée.
Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, peut-être pas. Peut-être pas, et il faut pas. C'est pour ça que je dis vraiment, il faut pas rougir de cette pause professionnelle, de cette transition professionnelle, parce qu'il faut vraiment justement le voir comme une transition professionnelle. J'étais quelqu'un avant, je suis quelqu'un aujourd'hui, et donc il faut pouvoir présenter la nouvelle personne qu'on est aujourd'hui et dire bah oui, c'était un épuisement professionnel qui m'a permis de.
Ok.
Voilà.
Donc pour les pièges à éviter, après quand on dit les pièges à éviter, c'est plus des pièges, je pense, qu'on se fait à soi-même, plus que
Ouais.
des pièges que l'autre nous tend.
Mmh.
Donc on a dit, on se justifie pas en mode, je te rassure, mais en mode frénétique, genre non, ça va aller, ça va aller. On a dit, on ne critique pas son ancienne expérience
Jamais.
et
Jamais, jamais.
jamais, jamais crie
Et
bon
on se
sang.
dévalorise. Ouais, ça, c'est vraiment le truc à éviter. Et on ne se dévalorise pas. Enfin, c'est vraiment et franchement la dévalorisation, ce que j'observe chez beaucoup de mes clientes dans cette situation-là, c'est qu'elle est très vicieuse, elle est très perfide cette dévalorisation parce qu'en fait elle rentre vraiment dans des éléments de langage qui quand on les dit, on n'a pas l'impression que ce soit un truc de fou.
Ouais.
Tu vois, il y en a beaucoup qui disent, alors oui, c'est vrai que je suis plus à jour sur les logiciels actuels. Hein, oui, c'est vrai que machin. En fait, on se rend pas compte qu'on se dévalorise, mais en réalité, la manière dont c'est perçu en face, c'est justement de se dire, ah ouais, d'accord. Donc elle est plus à jour, quoi. Ah ouais, d'accord. Alors qu'en réalité, encore une fois, les compétences. Quelle qu'elle soit, métier informatique, etc. Tout ça, c'est des choses qui s'apprennent, quoi. Enfin, tu vois. Donc, par contre, il
On
y
ne
a un.
pose pas la question, j'imagine, tais-toi, quoi. Si on
Bah,
te dit
exactement.
pas,
Oui,
est-ce
c'est
que
ça.
tu es à jour sur tel logiciel?
Voilà, c'est ça. Ouais, exactement. Si on nous pose pas la question, c'est inutile d'amener la chose pour dire. Alors attention, parce que c'est vrai que ça, je me rappelle plus du tout. Hein. Enfin, tu
Oui.
vois, c'est pas nécessaire. Et quand bien même on nous pose la question, donc l'idée c'est pas de mentir et de dire non, non, mais s'il y a aucun problème machin, c'est qu'on peut dire oui, c'est vrai que je dois. C'est pas le fait de ne plus être à jour, c'est je dois me remettre à jour sur l'outil, mais j'ai prévu de, je sais pas, faire une formation. Enfin, aujourd'hui, il y a plein de formations, même gratuites, hein, qu'on peut
Oui.
faire pour se remettre à jour sur un outil ou pour se former complètement sur un autre outil. Donc voilà, c'est hyper important de faire attention de ne pas tomber dans ce piège-là, de se dévaloriser face aux recruteurs. Et le dernier Le dernier piège, ça serait aussi de pas donner l'impression qu'on recherche un job parce que bah en fait on doit payer notre loyer, tu
Ouais.
vois, un peu par défaut. C'est même si ça peut être le cas, et il n'y a pas de mal à ça. J'ai tendance à dire que l'entretien d'embauche, c'est une pièce de théâtre. Et il faut en apprendre les codes pour pouvoir se démarquer. Malheureusement, c'est comme ça. Et donc, le recruteur en face, il a besoin que tu lui montres que tu es super motivé à intégrer l'entreprise et que tu sais pourquoi tu es là et que tu as compris le poste, etc. Et donc, même si toi, à tes yeux, c'est entre guillemets un job alimentaire, il faut pas que tu le montres tel quel, en fait, au recruteur.
Ok, donc faut quand même trouver un sens. Enfin, en tout cas,
Ouais.
j'espère que dans tous les cas, quand tu candidates à un
Oui.
poste, il y a qu'un sens derrière. Et même s'il y en a pas, parce
Absolument.
que je me dis, tu vois, pour caissière, pour femme de ménage, ça va être un peu compliqué. Mais il faut que tu trouves une bonne raison de faire ce boulot et
Ouais.
dis le jour J.
Exactement.
Pour revenir, tu sais, au fait de ne pas critiquer son ancienne expérience, qu'est-ce que on pourrait dire du coup, si jamais on nous pose la question, pourquoi vous avez quitté votre ancien métier, votre ancien
Ouais.
poste, votre ancien...
En fait, on peut. Alors, c'est une réponse qui est. C'est difficile de donner une réponse concrète pour tous les cas parce qu'évidemment, il y a plusieurs. Il peut y avoir plein de raisons. Il peut y avoir des raisons organisationnelles. Il peut y avoir des raisons financières. Il peut y avoir plein de choses. Enfin, vis-à-vis de notre dernière entreprise, des raisons managériales, etc. Mais en fait, l'idée, c'est de dire que c'est de mine de rien pas trop s'attarder là-dessus et d'être toujours tourné vers l'avenir, vers le positif. Donc, c'est de dire, par exemple, bah les conditions justement organisationnelles, financières, managériales, etc. Bon, si c'est managérial, parlez plutôt d'organisationnel pour le coup. Ne me permettait plus d'exercer mon métier dans de bonnes conditions. Enfin, voilà, le contexte ne me permettait plus d'organiser mon métier dans de bonnes conditions. Il y a eu une réorganisation interne. Il y a eu, je sais pas, des restrictions budgétaires, etc., etc. Donc, voilà, j'ai fait le choix de prendre du recul et de me repositionner professionnellement pour pouvoir savoir vraiment ce que je voulais, ce que je ne voulais plus. Et aujourd'hui, ça me permet d'être face à vous avec beaucoup plus de clarté et de sérénité et voilà, une vraie certitude que votre entreprise et cette offre-là m'apportera tout ce dont j'ai besoin et que moi aussi, je vous apporterait tout ce dont vous avez besoin. Bam, on tourne vers le positif, l'avenir, aujourd'hui c'est toi et moi,
Oui.
un peu comme dans un date finalement, tu vois, c'est non, non, mais mon ex,
Mon ex était
t'inquiète.
un fou, mais
Voilà,
t'inquiète.
c'est mon ex le fou, mais vas-y, t'inquiète, aujourd'hui c'est toi et moi et on va aller très loin ensemble. Ben, c'est, tu vois, les règles, c'est un peu les mêmes hein, finalement. Donc, ne pas hésiter, pardon, à toujours se tourner vers ce côté un peu futur sans pour autant s'étaler sur mon ancien manager était un fou, je me suis fait harceler, machin, etc., etc. On rentre pas dans ce type de détails-là, on reste vraiment sur du détail macro, j'ai envie de dire. On parle de contexte, on parle de réorganisation, on parle de restrictions budgétaires, on parle de plein de choses.
Mais
Mais
pas
on
de
parle
l'humain en
pas.
fait.
Ouais, exactement.
Et
Ouais, c'est ça.
est-ce que ça passe de dire bah, quelque part j'ai fait le tour et que j'ai envie de voir de nouvelles choses?
Alors, ça, franchement, ça peut passer, mais ça dépend combien de temps est-ce que tu es resté dans
D'accord.
l'entreprise. Parce que tu vois, si tu me dis j'ai fait le tour alors que tu es resté un an, alors tu peux voir plein de choses hein, en un an, enfin, et puis en fonction des postes aussi, ça va dépendre. Tu peux avoir fait le tour en un an. Mais encore une fois, il faut faire attention parce que l'objectif, c'est vraiment de rassurer le recruteur. Et en un an, il y a potentiellement des recruteurs qui vont se dire, ah ouais, donc ça veut dire que nous, elle va venir dans notre entreprise et au bout d'un an, elle va se barrer parce qu'en fait, elle aura fait le tour. Tu vois, ça va très vite chez eux parce qu'en fait, eux, ils se disent, si je recrute cette personne-là, il faut que ça soit rentable. Un recrutement, ça coûte très cher de base. Ça coûte plus de 10 000 euros avec les coûts cachés, etc. Enfin, les coûts indirects, etc. Donc, ça coûte en général plus de 10 000 euros. Nous, on recrute quelqu'un pour rester sur la longueur, le long terme, etc. Donc, si on dit, bah, moi, je suis restée un an et demi, et j'ai fait le tour de mon poste, faut faire attention. Par contre, si on est resté 5 ans, 6 ans dans notre poste ou plus, et que là, on se dit, bah, ouais, j'ai fait le tour, etc., ou même 4 ans, 4 ans aussi, ça, on peut avoir fait le tour de son poste en 4 ans, c'est un peu plus entendable. Là, je pense qu'il y aura moins de risques que le recruteur se dise oulala, mais attends, machin. Après, ça dépend aussi si bah on avait le même poste, tu vois. C'est ça aussi le truc, c'est que si on est resté 5 ans sur le même poste, oui, bah oui, tu peux avoir fait le tour. Si pendant 5 ans t'as eu des évolutions de poste, enfin, tu vois, c'est encore une fois, c'est toujours la durée de l'expérience professionnelle dans un seul et même poste. Oui, il faut faire attention quand on utilise la carte de « j'ai fait le tour de mon poste ».
Il faut que le temps puisse le justifier au final.
Exactement.
Qu'on se dise pas que c'est un papillon.
C'est ça, en fait, on peut se tirer une balle dans le pied sans même s'en rendre compte parce que derrière, le recruteur, lui, il a tout un mécanisme de rentabilité financière que nous, candidates, on voit pas forcément, ce qui est normal. Enfin, je veux dire, voilà. Mais dites-vous bien que quand vous recherchez un travail, les recruteurs, ils sont là. Alors, sauf si on parle pour un CDD, évidemment, je parle vraiment pour les CDI. Il est là pour savoir si vous allez rester longtemps à votre poste et que vous allez être une candidate rentable, entre guillemets, sur tous les points de vue.
Et si on parle de sens, genre si je dis voilà, l'entreprise a un peu changé son fusil d'épaule et que la façon de faire ne correspond plus à mes valeurs et donc je me reconnaissais plus dans le travail.
Oui.
C'est pas un truc négatif.
Ouais, c'est ça, exactement. On a juste, nos chemins se sont séparés. Mais dans ce cas-là, il faut pouvoir s'attendre à la question, c'est-à-dire, quelles sont vos valeurs actuelles? Qu'est-ce qui a fait que, parce que là, il y a un vrai sujet, un vrai questionnement de positionnement. Et pour le recruteur, l'entreprise en face, c'est aussi important que il ou l'entreprise puisse comprendre qu'est-ce qui fait que quel a été votre déclic, qu'est-ce qui est un peu dans la zone du non-retour pour vous, etc., pour être sûr que vous et l'entreprise soient alignés.
Donc les nouvelles valeurs, elles doivent être du coup les mêmes que celles de l'entreprise. En gros, tu ne peux pas lui dire attends, je viens de le quitter parce qu'en gros, je viens de quitter mon ancien poste. Parce que j'avais moins d'autonomie ou qu'ils ont commencé à financer l'armement. Et en face de toi, t'as une entreprise qui finance l'armement et qui ne te donnera pas ton autonomie.
Oui, exactement. Faut que ça soit cohérent. Après, d'où l'intérêt de se renseigner à fond sur l'entreprise. Ça paraît bête, mais en réalité, quand on est dans le recrutement, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de candidats qui se renseignent vraiment sur l'entreprise. Ouais. Sur l'activité, sur les valeurs, etc. Ça, c'est une étape de la préparation qui est hyper importante. Mais effectivement, il faut que ça puisse être cohérent avec ce pourquoi j'ai postulé, ce pourquoi j'ai quitté mon ancienne entreprise et tout le discours de aujourd'hui, je sais ce que je veux, ce que je ne veux plus.
Ok. Donc là, si je suis en arrêt, que je vais bientôt... que j'ai envie de reprendre le boulot finalement, je vais dans les sites où il y a les offres d'emploi.
Oui.
Je prends le temps de bien sélectionner l'offre qui me correspond le mieux.
Oui.
Et pour ça, je dois faire tout un tas de recherches bien avant de candidater.
Exactement. Alors, tout un tas de recherches sur l'entreprise, mais avant même de commencer à rechercher concrètement un poste, il y a aussi tout un travail d'introspection à faire sur soi-même, d'un point de vue personnel, mais aussi professionnel. Donc justement, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, et quels sont mes non négociables? Sur quoi est-ce que aujourd'hui je ne m'insérerai plus? Et voilà, tout ça, il faut le clarifier dans son esprit, le poser sur papier si besoin, etc., etc., pour justement poser ses limites et les faire respecter. C'est à partir de ce socle, en fait, ce socle-là que bah, on peut soit retravailler son CV, parce que voilà, il y a tout un potentiel retravail de ces documents de d'embauche entre guillemets, de candidature plutôt. Et à partir de là, aussi faire toute une passe, toute une introspection sur bah, qu'est-ce que cette pause m'a apporté, parce qu'il y a toujours des apports, quel qu'en soit le motif de la pause et quelle qu'en soit la durée aussi, ça vous a forcément apporté quelque chose, et aussi bah, effectivement se remettre un peu le pied à l'étrier avec bah, voilà, des simulations d'entretien, faire des candidatures ciblées, vraiment avoir une espèce de stratégie de candidature basée sur tout le socle qu'on a construit au préalable. En fait, c'est, enfin voilà, après c'est vraiment le côté bon bah là, de manière opérationnelle, je sais ce à quoi je dois postuler, ce à quoi je ne dois plus postuler, les red flags auxquels je vais être attentive maintenant, parce que tout est hyper clair dans ma tête, quoi.
C'est surtout ça.
Ouais.
Le travail le plus difficile, c'est de se dire tout est hyper clair dans ma tête.
C'est très dur. mais c'est vrai. C'est un vrai travail. Hein.
Un et travail attention, de fond, faut... sur des mois.
Exactement.
Pas forcément linéaire en plus. Ouais. Donc il y en a qui font ça et qui arrêtent tout et qui vont postuler, mais en réalité c'était trop tôt parce que juste après il y a là une baisse. Et non, c'est vraiment le travail le plus dur finalement, c'est de se poser. Des questions à soi et d'identifier toutes les croyances qui font que tu as fait pas n'importe quoi à la dernière expérience pour les déconstruire, cette croyance, pour redémarrer correctement dans la prochaine expérience. Et de toute façon, ça se verra, sauf si tu es une très bonne actrice, ça se verra à l'entretien.
Oui, c'est ça, mais il faut aussi accepter cette réalité-là. En fait, et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je disais que on avait tendance à avoir une espèce de perfectionnisme, à attendre plutôt une espèce de perfectionnisme qui va paralyser nos candidatures, etc. En fait, il faut aussi accepter que on ne peut pas, on ne sera pas prête à 100% avant de revenir progressivement sur le marché du travail, etc., etc. C'est pas grave. Il faut se déculpabiliser de ça. En fait, on revient à son rythme et chacune a son propre rythme parce que chacune a son histoire, parce que voilà, personne n'est pareil, chacune a sa sensibilité, chacune a son, enfin voilà, c'est tout ça, il faut pouvoir l'accepter et il faut simplement être patiente envers soi-même et se faire confiance aussi, même si c'est très difficile, mais se faire confiance et voilà, et se dire bon bah ok, je prends le temps là, aujourd'hui j'ai l'énergie de faire ça, donc je le fais, demain j'ai pas l'énergie, c'est pas grave, je le fais pas en fait, et puis je verrai si après-demain j'aurai l'énergie à nouveau, mais voilà, il faut vraiment avoir cette patience là envers soi-même et cette douceur aussi qui est extrêmement utile quand on se remet un peu entre guillemets le pied à l'étrier, parce que ça peut être aussi très violent hein, de venir sur le marché du travail, on se heurte aussi à des réalités qui peuvent être très dures, donc il faut pouvoir être patiente et douce envers soi-même et non culpabilisante et s'entourer de personnes, même si ça peut être compliqué, mais s'entourer de personnes qui soient dans cette même optique et qui soit justement un peu peut-être aussi les garde-fous, enfin tu vois, si on a des personnes comme ça qui à qui on peut parler, etc., ça c'est pépite, mais bon, je sais que ça peut être un peu, tout le monde n'a pas le luxe entre guillemets évidemment d'avoir un entourage ultra bienveillant et surtout qui comprend tout ce qu'engendre un épuisement professionnel.
C'est clair. Bah du coup à ce moment-là faut aller le chercher.
Ouais.
Que là tu vois, cette écoute, ce réconfort, faut aller le chercher.
Vraiment de rassurer ces femmes sur le fait que vous n'êtes pas cassées, vous n'êtes pas trop, enfin voilà, vous n'êtes pas vous n'êtes pas cassées pour ce marché du travail, vous n'êtes pas à la ramasse ou quoi que ce soit. En fait, Vous avez connu une transformation. Vous étiez quelqu'un avant, vous êtes quelqu'un maintenant, et il faut prendre cette personne-là en compte, et il faut pouvoir reconstruire un récit sur sur cette transition. C'est pas quelque chose dont il faut rougir. Ça fait partie de vous, et c'est totalement ok. Il y a plein de personnes qui reviennent sur le marché du travail, qui reprennent des postes après avoir subi après avoir connu un épuisement professionnel, ça ne fait pas. Enfin voilà, c'est au contraire entre guillemets une opportunité d'être plus consciente de vos besoins professionnels et personnels évidemment, mais aussi d'être plus alignée, d'être plus solide. Et effectivement, ça vous a apporté des choses. Il faut pouvoir les identifier, ces choses-là. Mais croyez-moi, ça vous a apporté des choses. Même les petites choses où, en fait, on se rend même pas compte que c'est quelque chose de positif et qui peut faire la différence. Faites ce point-là, faites cette introspection-là. Et effectivement, entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, comme vous le méritez, quoi.
Ouais, qui vous encouragent, qui vous... montre comment faire certaines choses, qui vous donne des astuces, qui vous permettent finalement de concrétiser le projet.
Oui, exactement.
Du retour à l'emploi. Bon, exactement. En tout cas, merci beaucoup pour toutes
merci
les explications, tous les petits détails. Tu as été très généreuse. Écoute, ça fait plaisir.
Avec grand plaisir.
Moi, comme d'habitude, je mettrai ta page, je mettrai toutes tes coordonnées, comme ça les filles elles n'ont qu'à cliquer pour arriver jusqu'à toi et te poser plus de questions si besoin.
Avec plaisir, je reste disponible.
Merci plus pour ton écoute. Si tu veux soutenir le Café des Burnies, tu peux me laisser un avis, me mettre 5 étoiles sur la plateforme de Apple Podcast. Tu peux partager le podcast tout autour de toi. On ne sait jamais le bien qu'il pourrait faire ni qui pourrait en avoir besoin. Et pour échanger sur cet épisode ou une autre problématique en lien avec ton épuisement, je te donne rendez-vous sur Instagram, sur Telegram, sur WhatsApp, par mail. Bref, tu sais où me trouver. Sinon, on se capte la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, booste ton feeling good.